J'ai glissé, chef.
Figurez-vous que Thérèse n'est pas moche, elle n'a pas un physique facile.
J'ai du mal à parler parce que j'ai les dents qui poussent.
Quand on parle pognon, à partir d'un certain chiffre, tout le monde écoute.
Tu me fends le cœur.
Si je connaissais le camp qu'a fait ce thème pas.
Ce soir, je vais conclure.
La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant.
C'est pas son jour, dites donc.
C'est jamais son jour.
Il n'y a pas d'hélice, c'est l'as.
C'est là qu'est l'os.
Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
Et bienvenue sur Radio Grand Air, notre nouveau rendez-vous de la semaine consacré au cinéma. Vous le savez, chaque semaine on se retrouve dans les salles de la Brèche avec Pascal pour l'émission Entracte et on va voir le programme de la semaine. Mais tout d'abord, bonjour Pascal.
Bonjour Christophe, de retour aux sources, alors au studio.
Absolument.
On revient
aux sources.
Aux sources, exactement. Bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Grand Air. Soyez tous et toutes les bienvenus dans ce numéro 69 d'Entracte.
Voilà, t'es venu à moto.
Ah, t'as vu, on entend bien, c'est vrai.
C'est les bruitages, hein, t'as vu, on fait bien les bruitages à la radio. Avec cette semaine, dans cette nouvelle édition, ce numéro 69, sept rendez-vous à la Brèche parmi tant d'autres, Pascal.
Voilà, donc j'ai choisi sept films cette semaine. Alors il y aura deux films pour les tout-petits. Donc on va parler de L'Arbre aveux, donc le film de Ricard Cusso, ainsi que le film Valentina de Kelo Loureiro. On va parler également, évidemment, je pense que ça sera quand même le gros film de la semaine, un film de Louis Leterrier, Fast and Furious.
Ah oui, très bien. Oui. Il y a des fans là.
Ouais, ouais, mais là ce qui est marrant, c'est que c'est Louis Leterrier, oui, c'est vrai qu'il est français lui. C'est le réalisateur est français.
Ouais.
Mais je trouvais ça quand même assez étonnant, hein, parce que d'habitude, c'est.
Oui, c'est une production
américaine.
C'est ça, ouais. C'est ça.
On va parler aussi du dernier film de Gina Kamel et Riley Keough, War Pony. Là, on va aller dans les réserves indiennes. Dans les réserves indiennes, donc. Qui sont pas en très bon état, comme tout le monde le sait, aux États-Unis. On va parler aussi du dernier film de Kelly Richard, Showing Up. On va parler aussi du dernier film de Benoît Mariage. Alors, j'en avais parlé vraiment rapidement la semaine dernière, parce que justement, je présentais sa venue au cinéma. On va parler un peu plus de Habib, la grande aventure. Et une grosse page d'histoire cette semaine avec le film de Mati Gechonek, La Conférence.
Est-ce un huis clos?
Je suppose que c'est un huis clos. Alors, moi, j'ai pas vu le film.
Ouais.
Mais voilà, ça, c'était une lourde page de l'histoire. La Conférence. C'est-à-dire la planification de la solution finale.
Ouais.
L'horreur absolue. Voilà, donc je trouve que c'est bien de rendre compte aux gens que cette réunion a eu lieu et surtout dans quelles conditions. Je trouve ça quand même bien d'en parler. Mm. Et dans le cadre de la sortie du film, donc Habib, la grande aventure, j'ai choisi Bonhomme Mariage.
Très bien.
Voilà.
Joli choix, Pascal. On va commencer par L'Arbre aveux. C'est un rendez-vous pour les jeunes à partir de 6 ans. C'est une production australienne, je crois.
Voilà, un film qui vient d'Australie, un film d'animation. L'Arbre aveux. Donc c'est à partir de 6 ans, hein, un film d'une heure 30, animation-aventure, donc de Ricard Cusso. Alors tous les animaux vivent en harmonie dans la cité sanctuaire protégée par un arbre aveux sacré qui les maintient à l'abri des dangers du monde extérieur. Kerry, un jeune opossum, rêve d'aventure alors qu'elle a égoïstement mis en péril la paix qui y régnait. Elle doit traverser donc les terres sauvages entourant la cité sanctuaire pour réparer les dégâts qu'elle y a causés. Elle va devoir combattre l'extinction qui menace les habitants de la cité et tenter de sauver les siens. Une bien lourde mission pour un opossum. Alors l'univers des contes de la cité sanctuaire est né donc des espoirs partagés des équipes de Like a Photon Creative pour l'avenir, donc une société qui vit en harmonie avec la nature, capable de reconnaître ses erreurs et qui privilégie la bonté, la tolérance et la générosité spirituelle. La productrice Nadine Bates qui est cofondatrice et directrice de la création chez Like a Photon Creative, développe, comme beaucoup, d'autres producteurs et écrivains australiens, dont Kristen et moi avons été bercés par des histoires magiques, épiques et inspirantes durant toute notre enfance. Cependant, les histoires qui nous tenaient à cœur en tant que tout petits représentaient rarement le pays dans lequel nous vivions. Il y avait des histoires de hérissons, d'écureuils, d'ours et de fêtes de Noël enneigées. Et oui, c'est pas le cas en Australie. Effectivement, c'est ça clair. Change un peu. Elles étaient remplies de paysages verdoyants et vallonnés qui ne reflétaient tout simplement pas la broussaille sèche de l'arrière-pays australien et qui n'avaient rien à voir avec ce qui nous entourait. Notre environnement semblait parfois presque extraterrestre en comparaison avec la douceur des livres d'images et leurs personnages animaliers, qu'ils soient anglais ou américains. Enfin, cela dit, il y a quand même des belles hauteurs. On skie en Australie.
Ah oui, c'est vrai.
Il y a des montagnes. Il y a du froid quand même, mine de rien. Il n'y a pas que l'outback super aride. Alors, comme elle nous dit aussi, lorsque on nous a donné donc l'occasion de créer à partir de rien notre propre univers entier, nous avons sauté sur l'occasion de partager les merveilles et les bizarreries de l'environnement australien et de ses habitants. À la cité sanctuaire, vous trouverez donc des lézards à collerettes, des cocasses et des crapauds bœufs. Vous voyagerez à travers les divers paysages qui nous entourent, parfois bruns et secs, parfois presque éclatants dans leur verdure, confie Nadine Bates. Et elle ajoute, nous avons pu montrer avec fierté la magie de notre monde immédiat et inscrire nos profonds espoirs pour l'avenir. En fin de compte, Kristen et moi et toute notre équipe avons créé le monde que nous aurions aimé voir lorsque nous étions ces petits enfants qui regardaient l'écran, les yeux écarquillés et tombaient amoureux des histoires racontées. Un monde qui inspire l'espoir et la magie à nos jeunes spectateurs. Un monde qui inspire l'espoir, voilà, et la magie. Donc voilà, tout un sacré conte, hein, et oui, c'est bien de le mettre un petit peu à la sauce australienne, oui. Oui,
oui, c'est vrai, on n'a pas souvent des productions australiennes, en tout cas, et c'est toujours intéressant de voir un petit peu ce côté très nature, en fait, pour les jeunes.
Et voilà.
Ça donne du sens, en fait. Hein.
Bien sûr, et puis c'est aussi l'occasion de découvrir un autre univers, animalier, et puis d'autres paysages. Hein.
Les fameux kaolas, on n'en a pas parlé.
De quoi,
en Australie? Les kaolas.
Les kaolas, non. Je ne suis pas.
Ils existent.
C'est vrai.
Les pauvres. Ils ont souffert avec les fameux feux.
Ah, les koalas. Non, les koalas.
Les koalas.
Oui, koalas, ouais. Oui, le koala, c'était une hécatombe.
Oui, ouais, c'est ça.
Ben oui, ils ne peuvent pas courir, rien. Oui, non, c'était une horreur. Mmh. C'était une horreur. Donc, Richard Cusso, lui, est un cinéaste, donc hispano-australien de Like a Photon Creative, et il réalise actuellement la suite des trois premiers longs métrages d'animation de la franchise Les Contes de la Cité Sanctuaire, tous destinés à une sortie en salle. Ricard a plus de 10 ans d'expérience dans le secteur du divertissement, notamment dans les spectacles de théâtre et les projets de cinéma et de télévision. Donc voilà un petit peu pour vous éclairer. Donc l'arbre à vœux, donc à découvrir cette semaine à la Brèche.
Voilà, et à partir de 6 ans, c'est un rendez-vous très familial,
voilà,
à ne pas rater.
Et il sera en sortie nationale.
Et en version française. Voilà. On va revenir sur notre rendez-vous pour les jeunes. C'est une production espagnole cette fois-ci. On revient en Europe avec un film d'animation qui traite notamment du handicap, Pascal.
Exactement, oui. Un petit dessin animé, enfin dessin animé, un film d'animation espagnol pour parler de la trisomie 21. Hein. C'est un handicap qui touche certains d'entre nous, hélas. Donc c'est Valentina, donc un film espagnol d'1h05, animation famille, donc de Kelo Lureiro. À partir de 6 ans, hein, donc. Donc Valentina, adorable petite fille avec trisomie 21, vit mal son handicap, persuadée que cela l'empêche de réaliser son rêve, devenir trapéziste. Donc du fin fond de sa chambre, au rythme de la musique, Valentina part pour un voyage imaginaire et merveilleux dans lequel elle découvre qu'elle est capable de tout, comme les autres enfants. Alors la sœur de Kelo Lureiro a contracté la polio lorsque la future cinéaste avait 2 ans. Depuis toute petite, cette dernière a donc été confrontée à des filles et garçons ayant des particularités. Au cours des innombrables hospitalisations que sa sœur a dû subir, elle a écouté des dizaines d'histoires d'enfants atteints de syndromes, de troubles, de malformations ou de problèmes qui les rendaient différents des autres. Et comme elle nous dit, je me suis aperçue qu'ils vivaient leur enfance en toute normalité parce que leur hospitalisation et leur différence étaient normales pour eux, car c'était leur quotidien. Et dès qu'ils sortaient de ce quotidien, c'était les autres qui leur faisaient se sentir étranges et différents. Dès lors, j'ai ressenti le besoin de raconter une histoire mettant en scène un petit être considéré comme différent, se rappelle la réalisatrice. Et elle rajoute « différente aux yeux des autres » car Valentina ressent, rêve, rit, s'énerve et vit son aventure comme n'importe quelle autre fille. Valentina subit la métamorphose que nous vivons tous dans notre processus de croissance et finit par se transformer, grâce à son enthousiasme, sa curiosité et son amour inconditionnel pour sa grand-mère, en un papillon sûr de lui, convaincu de ce que nous savions tous déjà, qu'elle est unique. Il m'a fallu presque 60 ans et beaucoup d'expérience accumulée pour oser le faire. Il n'est jamais trop tard. Alors qui est Lolo Guerrero? Alors il fonde en 2007 sa société de production, donc Abano Productions. Elle est également membre du conseil d'administration de la CIMA, qui est l'association des femmes cinéastes, membre de l'Académie des arts et des sciences cinématographiques d'Espagne et de l'Académie galicienne des arts et des sciences audiovisuelles. Donc en tant que productrice, elle a produit des séries télévisées, des courts-métrages, des documentaires et des longs-métrages en misant toujours sur un cinéma d'auteur de grande qualité et en soutenant de jeunes cinéastes. Plus récemment, elle a produit le long métrage d'Alberto Vasquez, donc Unicorn Wars, et le long métrage d'Isabelle Arguera, Sultana's Dreams. Valentina est son premier film en tant que réalisatrice. Le film a remporté le Goya du meilleur film d'animation en 2022. C'est son premier film, et bon, on va le souhaiter bonne chance.
Oui, surtout le sujet n'est pas facile hein, à retranscrire facile, aussi ouais. À l'écran. Puis c'est bien aussi d'aborder ce sujet pour les plus jeunes, pour qu'ils comprennent en fait.
Voilà, c'est une petite introduction, on va dire, au handicap et surtout à cet handicap particulier. Et je trouve que le faire, voilà, d'une manière un petit peu, on va dire, en film d'animation, je trouve que c'est quand même, c'est intelligent.
Voilà, c'est un exercice qui n'est pas facile, mais qui, à mon avis, est intéressant pour les plus jeunes.
Absolument.
Eh bien, c'est noté, Pascal, pour ce rendez-vous cette semaine à La Brèche. On enchaîne avec un autre événement, cette fois-ci, c'est pour les plus grands. C'est un rendez-vous qui sera, à mon avis, suivi sur les écrans de La Brèche cette semaine, parce qu'il y a un fan club, hein, il faut le rappeler, de ce film, enfin de cette série, de la série Fast and Furious.
Fast and Furious, et oui, alors X, il s'appelle X celui-ci.
Et pourquoi?
Alors,
on ne sait pas.
Ça, c'est une bonne question. Il y en a un qui est prévu pour 2025 aussi.
D'accord, 2025.
Oui, 2025.
Ça ne change pas.
Donc, Fast and Furious, donc c'est un film donc américain, vous pensez bien, de 2h21, c'est un film d'action, donc Louis Leterrier.
C'est un Français?
C'est un Français. Alors, Louis Leterrier, il est Français, il est acteur, réalisateur. Alors, juste pour vous donner un petit peu la teneur, on va dire, de sa création, en 2008, il a réalisé l'incroyable Hulk.
Ah oui.
Oui. En 2010, le choc des Titans.
Ouais.
Et en 2022, Loin du périph, avec Omar Sy et Laurent Lafitte. Voilà un petit peu pour quelques films réalisés par Louis Leterrier. C'est pour ça que je trouvais ça quand même assez amusant et assez intéressant quand un Français s'attaque à des grosses productions comme ça. Ben moi je dis cocorico et c'est bien hein, parce que ça veut dire qu'il a les épaules.
Voilà, ça veut dire qu'il a été qu'il a tourné aux États-Unis, je suppose.
Il a déjà tourné plus d'une fois. Hein, je crois que c'est pas son premier Fast and Furious. Je les ai pas notés, tu vois. J'ai fait l'erreur de pas les noter. Mais je pense qu'il a fait pratiquement tous les Fast and Furious précédents. Hein. Je sais pas le combien c'est celui-là. Je sais pas si c'est le 8e ou le 9e. Je sais plus. Je vais pas dire de bêtises.
Le 10e, non, peut-être X.
Voilà, peut-être c'est le 10e. Ouais, on va savoir. Qui va-t-on retrouver? Dans ce film. Alors, on va retrouver Vin Diesel, évidemment, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludi Harris, John Cena, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster et Sung Kang. Donc, après des missions et contre toute attente, Don Toretto et sa famille ont su déjouer, devancer, surpasser et distancer tous les adversaires qui ont croisé leur route. Ils sont aujourd'hui face à leur ennemi le plus terrifiant et le plus intime, émergeant des brumes du passé. En revenant assoiffé de vengeance et bien déterminé à décimer la famille en réduisant à néant tout ce à quoi et surtout à qui Dom a jamais tenu. Voilà une histoire de famille. Alors, c'est un avant-dernier tour de piste hein, pour Fast and Furious. Il est annoncé comme l'avant-dernier volet de la saga porté par Vin Diesel depuis 2001. Effectivement, hein. Ça fait 20 ans
Moi, j'ai des souvenirs de cette série de courses de voitures.
Ouais, il y en a eu pas mal. C'est vrai que.
Le fou furieux au volant, là.
Je les ai tous vus défiler, effectivement. Ouais. La star, qui est aussi donc producteur de la franchise, n'en revient pas de la longévité et du succès de cette dernière. Et oui, si. Et comme il nous dit, si vous m'aviez dit il y a 23 ans que j'allais avoir la chance de faire partie d'une série de films anthologiques au succès mondial sur plus de 20 ans, je vous aurais pris pour un fou. Quand nous avons commencé, nous avons tourné à Los Angeles avec un scénario adapté à cette ville et à son public. Jamais nous n'aurions imaginé que cela pourrait intéresser les spectateurs à l'international, ni se dérouler dans le monde entier. En tout cas, jamais nous ne nous serions douté que nous tournerions si loin de chez nous, encore moins pour y exporter notre vision de la famille. Oui. Il est carrément épaté, Vin Diesel. Ouais, mais après, c'est aussi le pas forcément le sujet, mais c'est quand même, ça tourne autour de la bagnole, du tuning, de la course, ce genre de choses. Je sais que il y a quand même pas mal d'adeptes.
Alors, ce qui est intéressant, il faut avoir le budget aussi pour le faire, ce.
Ah oui, mais tu sais, à partir du moment où t'en es à ton 20e, ça fait 23 ans que ça dure et ça fait 23 ans de succès, tu pousses n'importe quel producteur.
Tu épargnes un peu, tu mets de côté.
À mon avis, on t'ouvre la porte, ouais. Des financements. Je crois que ça pose pas de problème, quoi. Ils courent pas de risque, si tu veux, les producteurs.
C'est une valeur sûre.
Ah, carrément, oui. Alors que le film le plus cher de la saga, évidemment, il a un budget de 340 millions de dollars, donc tu vois, ils sont quand même assez bien dotés, hein. Ce qui en fait le film le plus coûteux de la franchise. À titre de comparaison, le précédent volet a coûté 200 millions de dollars. Là, on est à 340, ça, c'est toujours plus haut, toujours plus fort. Oui.
Ah, c'est l'inflation, hein, ça augmente, hein.
C'est vrai que le 8 avait coûté 250 millions, le 7e 190, le 6e 160, c'est marrant parce qu'ils montent en gamme, disait, et le 5e 125.
Ah, il y a peut-être plus d'effets spéciaux.
Et le tout premier alors? Mais le tout premier, il avait un budget de 38.
On est loin du.
Le deuxième de 76, tandis que le troisième et le quatrième ont respectivement coûté 85 millions. Ouais. Voilà, bah écoute, moi ça me parle pas trop, tu sais, au niveau des. Comment répartit le budget, tout ça. Bon, j'imagine évidemment que le cachet des acteurs, il augmente à chaque fois. À chaque fois, ça c'est sûr et certain. Donc, après avoir réalisé les épisodes 5, 6 et 9, Justin Lin devait initialement mettre en scène le 10e épisode de la saga. Mais il quitte le tournage le 27 avril 2022, avant que Louis Leterrier ne prenne la relève 5 jours plus tard. Le Français avait déjà été approché par Universal pour mettre en scène des films de la franchise, mais il ne se sentait pas encore prêt. Et comme il nous dit, c'est incroyable, c'est une saga fondatrice, ça fait 20 ans que les spectateurs évoluent avec les personnages, donc c'est effrayant. Mais sous l'impulsion de ma femme, j'ai finalement accepté. Tout le monde m'a traité comme un membre de la famille et au bout de la deuxième prise, c'était mon film. J'étais très bien entouré. Il a dû réécrire le scénario en 4 jours avant de s'envoler pour le tournage à Londres. Le scénar en 4 jours. J'ai une question, est-ce que tu as dormi? Donc, pour revenir au personnage du film, donc, Dom et sa bande confrontés à un nouvel ennemi, donc Dante, interprété par Jason Momoa. Donc il s'agit du fils du ponte de la drogue, Hernan Reyes, antagoniste de l'épisode 5. Dante a préparé donc sa vengeance durant de nombreuses années, observant Dom et ses proches dans l'ombre. Et Vin Diesel avait repéré Jason Momoa depuis des années et avait déjà songé à le caster en 2013 pour Riddick. Et l'interprète de Dante déclare donc « Ça fait 10 ans que je n'avais pas joué de personnage de méchant et l'opportunité d'intégrer la franchise signifiait beaucoup pour moi. Je me réjouissais à la fois de pouvoir y laisser ma marque et d'y injecter quelque chose de nouveau et de passionnant. Je me suis beaucoup amusé avec ce mélange entre humour et psychopathie. » Donc, écoutez, tout le monde s'est amusé. J'espère que vous aussi. Donc, Fast and Furious à découvrir à la brèche. Donc, cette semaine que nous aurons donc en sortie nationale. Et je pense que ça va bien fonctionner.
Voilà, c'est un rendez-vous. Il y a des fans, il y a des amoureux d'action, de tuning, de voitures utilisées. Et on va faire un petit détour sur la bande-annonce et on se retrouve juste après sur Radio Grand Air.
Et malgré tout, aujourd'hui, vous formez cette merveilleuse famille.
Qu'est-ce qui te trotte dans la tête?
Des paroles de petit Brian. Il m'a dit, papa, toi t'as peur de rien. Moi aussi. J'ai peur de perdre quelqu'un que j'aime.
Dominique Toretto. Tu vas savoir ce qu'est la peur, la vraie.
Boum!
Tu t'es construit une vie de rêve. Avec l'amour de ta famille. Moi, j'ai pas eu cette chance. Tu m'as tout volé. Mon avenir. Ma famille. Cette fois, à mon tour de prendre les tiens. Un par un.
Il vient vous chercher avec tout son arsenal.
C'est quoi le plan, Dom?
Là, je sais plus.
L'un de nous pourrait ne pas revenir. Mais on doit se battre.
Ne jamais accepter la mort. Quand la douleur est due.
Ça va péter! On the dangerous. Ain't too many
can bang with us. Label us no phobias. C'est un piège.
Il essaie de nous séparer.
On gagnait parce qu'on voulait gagner. On courait pour le respect. Aujourd'hui, je cours pour éviter un bain de sang.
C'est ça le problème d'avoir une famille nombreuse. Lesquels d'entre eux qui va choisir de sauver ?
C'est parti !
Voilà le Fast and Furious, le retour, dixième épisode, donc le X veut dire 10, Pascal. 10,
oui.
Évidemment, avec beaucoup de voitures, on paie pas le carburant là. J'ai vu que ça envoie avec des jolis bolides.
Ouais,
à mon avis, ça doit consommer. Hein.
Ouais, mais il est moins cher aux États-Unis, le gallon.
Ah, ouais, d'accord.
C'est pas le litre là-bas, c'est le gallon.
Ah, ouais, très bien.
Oui, oui. Et bon, mais tant mieux pour eux. C'est pas chez nous.
Là, ils roulent pas les tannos là. C'est vrai que. Voilà, donc on vous invite à aller faire un petit tour à la brèche cette semaine pour aller voir ce nouveau rendez-vous. En plus, c'est signé par un Français, donc c'est encore mieux.
Ouais, Louis Leterrier. Étonnant. Étonnant réalisateur, justement, qui fait une partie de sa carrière là-bas aux États-Unis, et c'est très bien.
Eh bien, on aura l'occasion de juger après la sortie de ce rendez-vous. On enchaîne sur Radio Grand Air avec notre rendez-vous cinéma à la brèche, War Pony, c'est quoi ?
C'est le cheval de guerre.
Ah, d'accord. Mmh.
Le pony, si tu veux, c'est le cheval.
D'accord.
On va rester aux États-Unis, mais on va aller dans les réserves.
Ah oui, t'en as parlé tout à l'heure.
Les réserves indiennes, oui. Mmh. Les tristes réserves indiennes, évidemment, parce qu'ici, ils sont parqués.
Et oui.
Ils sont parqués, et puis là-bas, c'est quoi ? C'est la violence, c'est endémique, c'est le trafic de drogue, c'est l'alcoolisme, c'est le manque d'éducation, l'accès difficile, on va dire, à la formation et effectivement ça se passe dans la tribu des Oglala et déjà faut savoir qu'il y a eu déjà des incidents dans cette réserve là de Pine Ridge il y a eu quand même des mouvements de révolte contre les États-Unis on va presque revenir au mouvement du 19e siècle quoi donc d'ailleurs il y avait un je crois que c'était les premiers films que j'avais projeté, ça s'appelait Incident à Oglala. Et ça parlait justement de ça, cette espèce de dérapage total. Et donc d'Indiens qui se révoltaient et qui refusaient dire leurs conditions de vie, qui sont quand même assez très dures. Hein. Mm-hmm. C'est vraiment très très dur. Hein. War Pony. Donc il faut savoir une chose, que ce film a eu. C'est un film donc américain d'1h54, hein, de Jean Nagamel et de Riley Keough. Ce film a reçu 3 prix et 10 nominations. Donc il a eu le prix du jury et le prix de la fondation Roederer de la Révélation pour Riley Keough et Gina Kamel au Festival du film américain de Deauville en 2022. Et il a eu la caméra d'or au Festival de Cannes en 2022. Alors au niveau des acteurs, on va retrouver vraiment... Là, quand tu vas voir, ils ont vraiment des noms d'Indiens. Hein. Stanley Goodvoice Elk. Goodvoice, bon, tu vois ce que c'est. Le Elk, c'est le cerf. Hein.
Oui.
Donc la bonne voix du cerf.
Ouais, ils ont toujours des ouais, noms d'animaux. De...
Exactement. Donc on va retrouver Jojo Baptiste, Withing, Steven Yellowhawk. Donc ça c'est le faucon jaune. Vilma Koloff, Jen Mesté, Vasos et Garcia, Wingjam Black Cat et Macario Long Black Cat. Voilà des vrais noms d'Indiens. Donc c'est l'histoire de deux jeunes hommes de la tribu Oglala qui vivent dans la réserve de Pine Ridge, dans le Dakota du Sud. Bill, 23 ans, cherche à joindre les deux bouts à tout prix. Mato, 12 ans, est quant à lui impatient de devenir un homme. Donc liés par leur quête d'appartenance à une société qui leur est hostile, ils tentent de tracer leur propre voie vers l'âge adulte. Alors évidemment, le film a été présenté dans la sélection Un certain regard au Festival de Cannes en 2022 où il a obtenu la caméra d'or donc, qui récompense le meilleur premier film toutes sections confondues. Donc War Pony est mise en scène par Gina Gamel et Riley Keough, qui font leur début en tant que réalisatrice. Keough est plus connue en tant que comédienne, on l'a vu dans Mad Max, Fury Road, Logan Lucky, ainsi que les séries The Girlfriend, Experience et Daisy Jones and the Six. Donc c'est lors du tournage d'American Honey en 2015 dans le Dakota du Sud que Riley Keough a rencontré Bill Reddy et Franklin Sue Bob, les deux co-scénaristes natifs américains de War Pony. Ils étaient figurants sur le film d'Andrea Arnold. Ces deux jeunes hommes ont un magnétisme rare. Peu après le tournage, nous avons décidé de leur rendre visite dans leur ville natale, Pine Ridge. Nous y sommes retournés. Donc régulièrement, chaque fois nous avons rencontré des membres de la communauté. Nous sommes tombés progressivement amoureuses de cet endroit indescriptible. Après quelques voyages, Frank et Bill ont commencé à s'intéresser aux voyages que nous faisons. Nous leur avons demandé s'ils voulaient faire un film et cette amitié a évolué de façon très organique vers ce projet, raconte Keough. Le film est ainsi nourri des anecdotes et des souvenirs des deux hommes. Donc les personnages et les comédiens de War Pony sont des Oglala Lakota et des Sikangu Lakota de la tribu des Sioux Oglala et de la tribu des Sioux Rosebud, tous deux reconnus par le gouvernement fédéral des États-Unis. Le film se déroule dans la réserve de Pine Ridge, les terres souveraines des Oglala Lakota, dans le Dakota du Sud. Oui, avec quand même les barbelés en plus. Hein.
Ah oui, c'est
faut,
ça.
Il ne faut pas oublier, hein. C'est une réserve quand même, c'est, ça reste
faut,
un emploi.
Il faut rappeler que les Indiens ont disparu aussi, certaines tribus ont disparu pour justement faire passer le train.
Mais il y a ça surtout, mais on les a aussi obligés à faire de l'agriculture, à laquelle ils n'étaient pas forcément versés. Ouais. On leur a demandé d'abandonner leur dialecte, qui était interdit pour les gamins. Il est interdit de parler leur dialecte donc à l'école. On les a fait progressivement, on va dire, disparaître. On va pratiquement les rendre invisibles. Alors évidemment, il y a encore des embryons de résistance, mais les Australiens ont fait pareil avec les aborigènes. Hein. Ils ont commencé à ramasser les aborigènes dans le désert en leur disant maintenant, il va falloir mettre des robes, des pantalons, aller à l'école et puis aller à la messe. Quoi. C'est ça. C'est la mission civilisatrice de l'être humain, enfin de l'homme blanc, on va dire, dans tous les cas. Quoi. Donc, War Pony montre le sort des natifs américains aux États-Unis, exclus du rêve américain, à l'instar des autres minorités telles que les Afro-Américains et les communautés défavorisées. Les réalisatrices expliquent « Toutes les communautés marginalisées sont confrontées à la survie économique, l'exclusion, et c'est un phénomène mondial. Aux États-Unis, ils subissent une oppression systémique. Ces communautés ont subi des traumas qui se transmettent de génération en génération. Il y a beaucoup à faire pour les minorités ethniques. L'expérience des minorités visibles est très différente de l'expérience blanche, quelle que soit la tranche économique. » Donc Gina Gamel et Riley Keough sont deux femmes blanches réalisant un film sur une communauté à laquelle elles n'appartiennent pas. Elles sont conscientes qu'elles peuvent être accusées d'appropriation culturelle. Et Keough répond « Ce n'est pas parce que notre histoire prend le point de vue des natifs américains qu'elles auraient forcément intéressé un réalisateur natif. D'ailleurs, un scénariste ou réalisateur natif pourrait avoir envie aussi de raconter les histoires d'autres peuples que le sien. Cette communauté a été peu représentée au cinéma et je pense qu'une partie du cinéma va prendre cette direction, à savoir donner une voix à ceux qui en ont longtemps été privés. Nous sommes très honorés d'être donc partie prenante de ce mouvement. Et sa comparse renchérit. Notre souci était de collaborer avec eux de façon profonde, respectueuse et signifiante. Il ne fallait surtout pas les considérer comme de simples consultants. Nous devions honorer les voix de Bill et de Frank et de tous les gens dont nous racontons l'histoire. » Voilà un petit peu pour vous éclairer sur ce film-là, avec un sujet qui est grave, hein, et je trouve que c'est très très bien que les caméras rentrent dans les réserves comme ça.
Ouais, exactement.
Ouais. Oui. Et c'est très très bien. Alors, donc, comme je te disais, il y avait un incident à Oglala, et je crois que la flèche brisée aussi. Alors, je crois que c'était... C'est ça, c'est Broken Arrow, il me semble aussi, c'était avec... j'arrive pas à me souvenir de son nom, mais pareil, c'était sur ces incidents-là, hein, qu'il y avait des grosses fusillades qui avaient éclaté justement dans les réserves, là, quand ça dérapait un petit peu avec l'État américain. Hein. Alors, ils ont mis en place, tu sais, dans les réserves, tu as un système de police qui est spécifique donc, pour ces réserves-là. Et donc, ce sont vraiment des policiers natifs américains qui travaillent là-dessus. Mais bon, après, tout ce qui passe au niveau fédéral, ça passe dans d'autres bureaux, quoi. Mais voilà, donc ça, je trouve ça très très bien qu'on mette un petit coup de projecteur dans ces systèmes. Drôle de système d'ailleurs, hein. On est quand même aux années 2000, on les a parqués depuis le 19e. Et oui, parqués pourquoi? Parce que leur territoire, aussi, oui, ils sont énormes. C'était des chasseurs, pêcheurs, cueilleurs. Et leur domaine était gigantesque. Tu te rends compte, déjà les Sioux, je crois qu'ils allaient presque jusqu'au Canada à certaines périodes de l'année. Ça posait problème à bon nombre de promoteurs américains, de gens qui ont investi dans l'industrie, le chemin de fer et compagnie. Donc voilà, c'est quand même une page bien triste des États-Unis.
Eh bien, ce sera intéressant de voir justement la vie de ces Indiens, Warpony, à vivre et à voir aussi en version originale, Pascal, cette semaine à la Brèche.
Warpony, oui, bien sûr, et vous pensez pas que t'allais le passer en français quand même. Oui, il sera en version originale sous-titrée.
Eh bien, on enchaîne avec notre rendez-vous. On va rentrer dans l'univers, notamment de la création, l'univers des artistes, de la peinture, d'exposition, l'avant, le pendant, l'après, avec Showing Up.
Showing Up, donc on reste toujours aux États-Unis. Ce sera une comédie dramatique de 1h48, donc de Kelly Reichardt. Au niveau des acteurs, on va retrouver Michelle Williams, Hong Chu, André Benjamin, Heather Lawless, James Legros, Michel Seigre, Jude Hirsch et Matt Malloy. Donc, à quelques semaines du vernissage de son exposition, le quotidien d'un artiste et son rapport aux autres. Le chaos de sa vie va devenir sa source d'inspiration. Donc, d'où nous vient donc cette création? Donc, les œuvres créées par Lizzie sont réalisées par l'artiste Cynthia Lattie qui vit à Portland et donc Kelly Reichardt suit le travail depuis longtemps. Il s'avère que Lattie est aussi une très vieille amie de Jonathan Raymond, co-scénariste du film. La réalisatrice avait ses sculptures en tête dès l'écriture du scénario et a donc créé le personnage de Lizzie autour de son œuvre, quand elle a été approchée pour collaborer au film. Lattie était sur le point d'arrêter sa carrière, s'interrogeant sur la légitimité de son travail. En travaillant sur le film et notamment en formant Michelle Williams en amont du tournage, l'artiste a retrouvé son envie de créer. Et la réalisatrice se souvient. Quand nous avons terminé de tourner Showing Up, elle avait tellement créé d'œuvres qu'on ne pouvait plus mettre un pied dans son studio. Elle était on fire, comme elle nous dit. Donc Showing Up déconstruit le fantasme du génie. Pour Kelly Reichardt, envisager le génie comme un don inné est une pure construction. Showing Up parle du fait de travailler tous les jours et de prendre le temps de s'entraîner. C'était quelque chose d'essentiel au scénario. Il fallait montrer en quoi le fait de s'entraîner tous les jours devient quelque chose d'automatique comme le fait de manger. Travailler devient une nécessité, ne serait-ce que pour payer son loyer. Oui, c'est vrai que c'est le travail quotidien, mais tu vois, on avait parlé aussi des 3000 œuvres de Okusai la semaine dernière, ouais. Tu vois. Il a travailler tous les jours aussi. Hein. Donc, la réalisatrice comprend que l'on puisse trouver Lizzie ainsi que les autres personnages du film antipathiques. Lizzie n'est pas facile, elle est égoïste et doute pourtant d'elle comme tout artiste. Je m'identifie à elle notamment dans le fait de déballer ses angoisses à l'approche du vernissage de son exposition ou encore de se retrouver totalement vulnérable en rendant public son œuvre. Je pense que tous les personnages ont quelque chose d'imparfait. On peut s'identifier à eux. Donc Showing Up est la quatrième collaboration entre Michelle Williams et Kelly Reichardt après Wendy et Lucy. La dernière piste est Certaines femmes. Nous pouvons, donc comme elle nous dit, hein, nous ne nous voyons pas pendant des années et puis nous nous retrouvons et je constate qu'elle n'a cessé de s'enrichir en tant qu'actrice. Alors j'essaie de rester à son niveau. C'est très fluide entre nous. La collaboration se remet en place très rapidement, témoigne la cinéaste. De son côté, l'actrice accepte à chaque fois de tourner avec cette dernière avant même la lecture du scénario. C'est un honneur de travailler avec elle, mais aussi d'accumuler des expériences communes. Après 4 films ensemble, j'ai l'impression que notre collaboration est l'une des plus importantes contributions que j'apporterai au cinéma. Oh, c'est une jolie phrase.
Ah oui, très bien.
C'est,
ouais.
c'est
à garder. Hein.
Ouais, c'est carrément. Voilà un petit peu pour vous éclairer sur la dernière création de Kelly Reichardt, donc film américain d'1h48, donc il sera à découvrir à la Brèche cette semaine. Et oui, lui aussi est en VO.
Ah,
il
oui,
sera en version originale
ouais.
Sous-titrée.
Et bien c'est noté, on ira dans ce monde des artistes à la Brèche. On va retrouver un autre univers, celui du cinéma, et on en avait parlé il y a quelques temps, notamment dans un film où un acteur, on va dire un petit peu moyen, un petit peu maladroit, venait en fait, c'est un genre de fan, le fan ouais. de l'artiste qui était notamment. Alors, je me rappelle plus du tout.
C'est le film avec Lanvin.
Oui, Lanvin.
C'est,
voilà,
j'adore
c'est ça.
Ce que
ouais.
vous faites.
Oui, c'est ça. Ouais.
Oui.
voilà, où il rentre justement dans l'univers de ce film-là. Voilà, Artus. Oui. Exactement. Eh bien là, c'est un petit peu différent, mais l'idée est un petit peu proche aussi. On va retrouver un comédien qui veut faire son métier, mais ça va être un petit peu compliqué. Mais finalement.
Ah bah oui, voilà.
Mais finalement.
Donc on va parler de la Bible.
Eh oui.
La grande aventure. Alors, je n'avais parlé très vite la dernière fois, parce qu'évidemment, je voulais vraiment communiquer la date de venue de Bon en mariage au cinéma La Brèche. Hein. Donc c'est un film belgo-suisso-français, du Nord 28, c'est une comédie. Hein. Donc Bon en mariage, il n'en est pas à sa première réalisation, évidemment. En 99, il a réalisé l'excellent film avec Benoît Poelvoorde et Bully Lenners, Les Convoyeurs attendent.
Ouais.
Ça, c'était un bon film. En 2005, toujours avec Poelvoorde et Gilbert Melki, Cowboy. Je sais pas si tu t'en souviens de ce film-là.
Non, ça ne me parle pas.
En 2013, il a réalisé Les Rayures du Zèbre, toujours avec Poelvoorde et Tatiana Roro. Voilà, c'est un film sur le foot. Un peu moins abouti, je dirais. Donc au niveau des acteurs, on va retrouver Bastien Huguetto, Catherine Deneuve,
ouais.
Thomas Oliveres, Sophia Le Zaffre, Sophia El Abassi, Ahmed Danaïssa et Farida Ouchani, ainsi que Michel Faux. Donc c'est l'histoire d'Abib, qui est un jeune acteur qui rêve de théâtre et de cinéma, mais qui n'enchaîne que des rôles sans envergure. Sa famille donc a bien du mal à comprendre cette passion qui ne lui rapporte pas un rond. Jusqu'au jour où il décroche un petit rôle de gigolo aux côtés de Catherine Deneuve. C'est le début de la grande aventure, mais aussi le début des problèmes. Pour Benoît Mariage, Habib, la grande aventure est une fable sur l'identité. Le réalisateur voulait à la fois offrir le plaisir d'une histoire attractive et drôle, mais aussi susciter une interpellation sur le fond. Il précise, la réflexion proposée par le film dépasse largement le contexte de la double culture belgo-marocaine. Pourquoi est-ce si difficile de devenir ce que l'on est ? Questionnement exacerbé quand on est écartelé par les différents milieux qui nous composent, comme c'est le cas de Habib, acteur intellectuel engagé dans la modernité, issu d'une famille traditionnelle. La grande aventure humaine qu'évoque le titre n'est pas d'avoir parcouru 40 000 km pour aller sur la Lune, c'est une aventure beaucoup plus compliquée, celle de franchir cette distance qui nous sépare de nous-mêmes. Donc à l'origine du film, il y a une histoire vraie. Lors d'un atelier avec ses étudiants, Bon en mariage a rencontré Bilal, jeune acteur novice d'origine marocaine. Et le cinéma se rappelle. On sympathise, il me demande d'animer un atelier cinéma dans son quartier, et puis 4 ans, sans nouvelles. Quelle n'est pas ma surprise quand je vais au cinéma voir le tout nouveau testament de Jaco van Dormael et que je découvre le temps d'une scène Bilal en jeune gigolo dans le lit de Catherine Deneuve. Je l'appelle pour le féliciter. Tes parents doivent être fiers. Tu parles, me répond-il. Quand ils m'ont demandé ce que j'allais faire sur ce film, je leur ai dit que j'aidais une vieille dame à faire ses courses au Carrefour. La tristesse d'avoir dû occulter cette expérience à ses parents fut le point de départ de mon écriture. Non, mais j'adore quand même accompagner une vieille dame.
Je pense que ça va faire plaisir à Catherine de Neuve.
Ouais, faire ses courses au Carrefour, j'espère qu'elle n'a pas entendu. Ouais. Catherine. En revanche, le fait que Habib doive jouer Saint François d'Assise était une pure invention. Benoît Mariage voulait en effet que le protagoniste soit habité par quelque chose de fort qui le mette en porte-à-faux avec sa culture d'origine. Donc le metteur en scène raconte. Une de mes plus belles lectures a été Le Très Bas de Christian Bobin. Une biographie originale et bouleversante de François d'Assise. D'emblée, l'idée qu'il puisse incarner avec passion un François d'Assise au théâtre m'a convaincu. Habib est fasciné par le personnage, peut-être tout autant que moi. Une figure révolutionnaire pour notre monde contemporain, caractérisé par une avidité à posséder si peu joyeuse. Lui, le plus grand précurseur de la décroissance heureuse, habité d'une joie parfaite. Comment, comme Habib, ne pas être fasciné?
Oui, j'imagine.
C'est quand même le sujet, quand même pas mal, parce qu'effectivement, Habib, il a un pied dans la modernité, et surtout dans une famille super traditionnelle, donc effectivement, qui est un petit peu différente, quoi.
Ouais.
Et là, ça passe pas trop, quoi. Donc Habib, donc la grande aventure, que ce sera à découvrir à La Brèche donc cette semaine.
Voilà, donc c'est intéressant et si vous avez envie de passer un bon moment, eh bien je pense que ça va l'être en tout cas.
Oui, ça va être une comédie légère. Oui.
Voilà, on va revenir sur un autre sujet, mais cette fois-ci un sujet fort, à la fois dramatique, triste, qui marquera l'histoire aussi. un film historique, La Conférence, qui sera proposé cette semaine sur les écrans.
Oui, alors là, c'est des choses carrément moins légères,
ouais.
Voire plus lourdes. Oui, oui, effectivement, La Conférence. C'est un film allemand, alors, un film allemand. Je pensais qu'il y aurait, tu vois,
mais ça, c'est,
qui viendrait d'ailleurs et tout.
Bah là, voilà, l'exercice est... bah oui, il fallait oser.
Ouais, ouais, ouais.
Pas oser, c'est pas évident. De...
Mais c'est quand même assez particulier comme vision. Et je trouve ça très bien que les Allemands parlent un petit peu de leur passé qui est super lourd. Hein. Je sais pas si les Allemands contemporains... je sais pas comment ils prennent un petit peu le poids de l'histoire. Mais c'est pas simple. C'est quand même... Ouais, pas simple à vivre. Hein. Donc film allemand d'une heure 48, c'est un drame historique hein, de Matti Kechonek. Au niveau des acteurs, on va retrouver donc Philippe Hochmeier, Johannes Almayer, Maximilian Bruckner, Matthias Butschusch, Fabien Busch, Jacob Dill et Godehard Gysse, ainsi que Peter Jordan. Donc, au matin donc, du 20 janvier 1942, une quinzaine de dignitaires du Troisième Reich se retrouve dans une villa cossue à Wannsee, conviée par Reinhard Heydrich, évidemment, à une mystérieuse conférence. Ils en découvrent le motif à la dernière minute. Ces représentants de la Waffen-SS ou du parti fonctionnaire des différents ministères, émissaires des provinces conquises, apprennent qu'ils devront s'être mis d'accord avant midi sur un plan d'élimination du peuple juif appelé solution finale. 2 heures durant vont alors succéder débats, manœuvres et jeux de pouvoir autour de ce qui fera basculer dans la tragédie des millions de destins.
Ouais.
Ça a été bâclé en 2 heures. Ça ajoute encore au cauchemar.
Ouais.
Voilà.
Alors c'est peut-être un élément de l'histoire qu'on aurait peut-être pas souvent mis en avant dans les livres d'histoire. Hein.
À la conférence de Wannsee, non, alors celle-ci, on n'en parle pas, mais enfin, on parle quand même de la solution finale et de tous ces architectes.
Oui,
hein,
bien sûr.
Ça, c'est sûr, quoi. Mais là, c'est vraiment cette page de l'histoire, là, qui c'est vrai que c'était le déclencheur, hein, qui a fait basculer ou qui a accéléré, parce qu'évidemment, en 42, c'était déjà quand même bien en route. Mais là, c'était vraiment accélérer l'élimination, et je pense que, dans l'histoire de l'humanité, il n'y a pas beaucoup qui se sont attelés à des choses aussi atroces. Hein. Donc la conférence, donc, elle relate les événements qui se sont déroulés le matin donc, du 20 janvier 1942 dans une villa berlinoise de Wannsee, où 15 hauts responsables du Troisième Reich ont été réunis pour mettre au point la solution finale de la question juive. Le film est basé sur le procès-verbal hautement confidentiel de la conférence établi par Adolf Eichmann. Il n'en reste qu'un seul exemplaire retrouvé après la fin de la guerre. Adolf Eichmann, qui a été un des derniers nazis qui a été traqué en Amérique du Sud. Hein, c'est le Mossad qui est allé chercher Eichmann. Hein. Ils l'ont enlevé sur le sol argentin.
Ouais.
Et ils l'ont ramené en secret jusqu'en Israël pour le traduire en justice. Hein. Puis ils l'ont pas loupé. Hein. Je pense qu'il a été condamné à mort, Eichmann. Donc pour le scénariste Magnus Vatroth, la conférence est une tentative de rendre tangible la banalité du mal, mais aussi de rendre compte du mépris de l'humanité pour le langage. Et comme il nous dit, c'est un langage plein d'euphémismes et de chiffres qui étouffe toute empathie, et c'est bien là son but, un langage qui dégrade, qui exclut, qui rend le meurtre banal. Donc au niveau du tournage, le tournage du film s'est déroulé à Berlin en novembre et décembre 2020. Les séquences extérieures ont été tournées sur le lieu d'origine. La villa de la conférence de Wannsee, qui abrite aujourd'hui un mémorial, est un centre éducatif. Les séquences intérieures ont été filmées dans les studios Berliner Union Film à cette occasion. L'intérieur de la villa fut recréé et meublé conformément aux documents historiques. Donc, tu voulais rajouter quelque chose ?
Non, ça sera juste après. Hein. Ça sera juste après un élément d'histoire.
Donc, le réalisateur, Matti Kechonek, a accepté le projet à une condition. En accord avec le scénariste, le monteur et les producteurs, l'histoire devait être filmée en respectant une unité de temps et de lieu, à savoir la réunion et rien d'autre, sans débordement sur les jours précédents ou suivants, sans événement dans d'autres lieux ou à d'autres moments. Ouais, il voulait vraiment choper ce moment-là, c'est-à-dire ces quelques heures, juste avant le déjeuner, il voulait rien d'autre dessus. Donc oui, effectivement, on en parlait tout à l'heure en antenne, ça doit être un huis clos assez violent.
Alors ce fait historique, Pascal, arrive justement juste après le premier coup d'essai qui n'a pas fonctionné, puisque on se rappelle que le bras droit de la Gestapo à l'époque, qui était notamment Reinhard Heydrich, qui avait été assassiné par la résistance. Lui aussi, il voulait justement. Accomplir une mission, mais qu'il n'avait pas pu mettre en place. Donc, je pense que c'est une suite des événements quelques temps plus tard, malheureusement.
Alors déjà, mais je crois que Heydrich était à la Réunion.
Ah, il était à la Réunion.
Oui, il était à la Réunion.
Je crois qu'il avait été déjà assassiné.
Je pense qu'il était assassiné plus tard. Je veux pas dire de bêtises.
Ah ouais, d'accord.
Mais je pense qu'il était, il était à la Réunion. Oui.
Ouais.
Enfin, voilà. Après, je suis pas trop versé là sur ces pages-là d'histoire. Mais ils ont eu beau éliminer Heydrich, ils en ont toujours trouvé des.
Oui, il y avait toujours derrière.
Des fonctionnaires bien zélés pour remplir cette drôle de mission.
Oui, en tout cas, c'était le bras droit d'Himmler et forcément Himmler a mené un rôle dramatique dans l'histoire effectivement de cette deuxième guerre mondiale.
Oui. Donc voilà, donc la conférence, donc le dernier film de Mathy dans le Keshonek, donc à découvrir à la brèche cette semaine, en version originale sous-titrée.
Ah d'accord.
Ah bah attends, mais alors là tu le passes en français, ça n'a plus aucun sens.
Oui.
Faut vraiment le passer en allemand.
Ou avec l'accent, pas évident, effectivement. Voilà, donc c'est un rendez-vous intéressant qui, à mon avis, pour la mémoire, pour l'histoire de...
Pour l'histoire surtout, oui, pour la mémoire.
D'en savoir un petit peu plus.
Oui, et pour savoir aussi que ces choses-là ont existé. Mm-hmm. Et qu'il ne faut pas les banaliser, et qu'il faut en prendre conscience. Et on a beau dire, oui, mais c'était avant, c'était passé. Non. La barbarie humaine revient au grand galop dans le chaos de la guerre ou la traînée des combats, des choses comme ça. Évidemment, on regarde un petit peu ce qui se passe dans le monde. Et puis, pour revenir, alors évidemment... Sans parler non plus de déportation, mais faut savoir une chose, c'est que c'est à chaque fois que les Allemands ou les Prussiens ont envoyé la France, à chaque fois il y a pas eu des massacres de cet ordre-là dans ces échelles-là, mais ça y est quand même de drôles de massacres. Hein. Mm-hmm. Moi, je me suis penché pendant quelque temps sur les massacres de Belgique, notamment les massacres de Dinan, tout ça qui se sont passés en 1914, hein, août septembre 14, quand ils ont traversé la Belgique, c'était une horreur. C'était une horreur. Ils ont promené des nouveau-nés embrochés sur des baïonnettes. On s'en serait cru en 1789. Ces scènes macabres. Donc dans les chaos de la guerre et dans son sillage, la barbarie revient très très vite, très très vite. Alors évidemment, elle a trouvé son apogée dans la Seconde Guerre mondiale parce qu'elle évidemment c'était institutionnalisé. Il y avait toute une bureaucratie qui œuvrait pour toutes ces choses horribles. Quoi. Donc évidemment, ça a pris des proportions nettement plus importante, quoi. Mais oui, il faut mettre le nez là-dedans. Faut savoir que ça a existé. Et le pourquoi, il faut remettre un petit peu un coup de projecteur dessus, c'est que ça peut arriver aussi.
Ouais.
Faut pas l'oublier, parce que la nature humaine, elle est toujours la même, hein.
C'est clair.
Celle-ci, elle évolue pas depuis la préhistoire. Il y a toute une part de cruauté dans l'homme, donc, qui se déchaîne, effectivement, dans la guerre, hein.
Eh bien, Pascal,
voilà,
on va
à méditer tout ceci.
Voilà, méditer et à ne pas rater cette semaine à la brèche, à conférence. On va revenir sur le personnage de la semaine, Benoît Mariage. Alors, avec un nom pareil, on peut pas passer à côté, forcément, puisque tu l'as dit il y a quelques instants, à la brèche, vous pouvez voir cette semaine, Habib, la grande aventure signée par, justement, Benoît Mariage. Alors, qui est Benoît Mariage? Qu'a-t-il fait? Comment il est venu au cinéma?
Alors, d'où vient-il? Que fait-il?
D'où vient-il? Voilà.
Alors, déjà, il vient de Sainte-Foy, parce qu'il était là le week-end
dernier.
Il était là le week-end dernier. Nous a rendu hommage à la brèche.
Voilà. Vous avez pu le croiser à Sainte-Foy-la-Grande, en Pays Foyen. Voilà, très, très bonne nouvelle.
Alors, moi, je peux pas en parler, évidemment, parce que je n'étais pas là. J'étais pas présent, hein, sinon je vous en aurais parlé un peu plus, quoi. Donc, il est réalisateur, scénariste et dialoguiste. Il est né le 19 juillet 1961 à Virton. C'est où, Virton?
C'est par là.
C'est en Belgique.
Très bien.
Ce qui nous fait un jeune homme de 61 ans. Donc évidemment, au niveau de la... Donc il a été acteur aussi. Benoît Mariage, il est allé un peu à tous les étages. Là. En 2005, il a joué son propre rôle dans There Is No Direction. En tant que scénariste, il a quand même commencé donc à scénariser, on va dire, des courts-métrages. Hein. Il a commencé en 97 avec Le Signaleur. Hein. En 99, il a réalisé Les Convoyeurs attendent, très bon film avec Paul Ward. Hein. En 2002, il a réalisé L'Autre, pareil, où il a scénarisé. Hein. En 2005, Cowboy. En 2012, Une chanson pour ma mère. En 2013, pareil, toujours, il a scénarisé Les Rayures du Zèbre. En 2016, un film, pareil, qu'il a scénarisé, c'est Monquette. Avec François Damiens.
D'accord.
Tu l'as pas vu celui-ci?
Non, je l'ai pas vu. Non.
Il est assez spécial. Bon, alors, le projet, quand même, il était quand même assez audacieux parce que il y a une part de caméra cachée dedans.
Ah ouais.
Tu vois, c'est l'histoire d'un père avec on filme les rapports d'un père avec son fils, et le père qui fait de la tôle, tout ça. Et effectivement, il fait des caméras cachées dans le film. Il y a quand même des situations assez cocasses. Après, moi, j'ai pas trouvé le film super, super abouti, mais il y a quand même des passages vraiment assez rigolos là-dessus, quoi. Donc, au niveau réalisateur, donc, il a réalisé en 98, donc, Dieu seul suffit, qui est un court-métrage, ainsi que Le Signaleur, donc, en court-métrage aussi. Il a réalisé aussi Les Convoyeurs attendent, il a réalisé en 2000 Némadis, Des années sans nouvelles. En 2002, il a réalisé L'Autre. En 2005, Les Cowboys. En 2013, Les Rayures du Zèbre. Et pour finir, donc, 10 ans plus tard, en 2023, avec Habib, donc, La Grande Aventure. Donc, on va parler de sa biographie, donc, Un Bœuf dans le Mariage. Donc, Un Bœuf dans le Mariage, il commence vraiment dans les écoles de ciné. Hein. Alors, autant des fois, il y en a qui arrivent.
Oui, ils sont parachutés ou ils se font la main devant la caméra et après, ils passent derrière la caméra. Mais lui, il a fait quand même une école.
Voilà. Donc, après une licence de droit, Benoît Mariage se dirige vers le cinéma en intégrant donc l'INSAS, qui est l'école de cinéma national donc belge, hein, dont il est diplômé en 1987. Tout en écrivant des scénarios de fiction pendant ses loisirs, il est reporter photographe à Vers l'avenir pendant une dizaine d'années. Il réalise ensuite plusieurs reportages pour les magazines Striptease.
Oui, très bien.
Dont on a parlé.
C'était sur Arte, non ?
C'était sur Arte, oui, ouais, oui, exact. Avant de créer sa propre maison de production, donc Tram 33, dans le cadre de laquelle il réalise de nombreux documentaires à l'étranger. C'est avec Le Signaleur, un court-métrage de 20 minutes qu'il tourne en noir et blanc en 1997, que Benoît Mariage est révélé aux yeux de la critique internationale et du grand public. Son film reçoit de nombreuses récompenses, dont le Grand Prix de la Semaine Internationale de la Critique à Cannes en 1997 et le Prix du Jury International de Clermont-Ferrand en 1998. Ce succès lui permet d'écrire et de réaliser son premier long métrage de fiction, Les Convoyeurs attendent, avec Benoît Paul Ward, en 1999. Le film est sélectionné à la quinzaine des réalisateurs à Cannes et cité au César en 2000 en tant que meilleure première œuvre. En 2002, le cinéaste donc s'attelle à son second long métrage, L'Autre, dans lequel on retrouve l'acteur belge donc Jean Desclair, également à l'affiche du thriller La mémoire du tueur. Avec la comédie douce amère Cowboy, il retrouve pour la troisième fois son compatriote, Benoît Paul Ward, avec qui
il a beaucoup tourné avec lui.
Ouais, mais il est belge aussi.
Ah oui, c'est plus facile.
Et puis,
hein.
Et puis pareil, tu vois, Bully Lanners aussi qui a tourné pour lui.
Oui, François Damiens aussi, non ?
Et puis François Damiens, exact,
ouais,
qui est belge aussi.
C'est le trio,
aussi.
Hein, c'est
ouais,
le trio.
Ouais. Donc j'ai dit, mais pourquoi pas, hein, parce que ce sont tous d'excellents acteurs. Hein.
Exactement.
On en a parlé déjà dans cette émission, puis d'une fois, on a parlé de Paul Ward, Bully Lanners, tout ça, on a déjà fait leur fiche. Voilà un petit peu pour vous éclairer sur la vie donc de Benoît Mariage, et donc je vous invite vraiment à venir découvrir son dernier film, donc Habib, La Grande Aventure, donc qu'on passera donc à la brèche cette semaine.
Voilà, donc c'est un excellent rendez-vous, bien sûr, que vous allez pouvoir découvrir sur les salles de cinéma de la brèche qui vous attend, vous le savez, à des heures variées, hein. On peut venir à tout moment. Se faire plaisir.
Ah, à tout moment, oui, bah oui, ça, tout dépend de la programmation aussi. Mais oui, effectivement, oui. On est ouvert tous les jours.
Voilà. Alors, j'ai vu passer avant de nous séparer, j'ai vu passer une bande-annonce qui a tourné à la télé. Alors, je crois que c'était sur France 2 ce dimanche. La bande-annonce d'Indiana Jones.
Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu parce que moi, c'est pas...
Ça commençait à teaser un petit peu.
Ah oui.
Et on voit le lasso de notre ami Harrison Ford.
Ouais. Hélas. Mais moi, tu sais, j'ai un petit peu de mal parce que déjà, Harrison Ford, il commence à devenir super âgé.
Oui, mais apparemment, ils l'ont bien rajeuni.
Ouais, mais ça commence à devenir un peu inquiétant, je trouve, quand même, de rajeunir des gens qui sont déjà vivants pour les faire jouer dans un film, on va dire, dans le même moule que les autres, Indiana Jones. Bon, je pense que le marché du film, il a changé.
Ouais.
Que les attentes ne sont pas les mêmes. Et que les grands amateurs, on va dire, d'Indiana Jones, ils ont nos âges parce qu'ils ont connu les premiers. Alors voilà, est-ce que ça sera un succès? Je sais pas.
Alors je sais pas quand c'est prévu la sortie,
je
en tout cas.
Je crois que c'est en juillet.
Ah, c'est en juillet.
Il me semble, c'est en juillet ou août, je sais plus trop. Hein. Mais voilà, à chaque fois, bon, c'est un gros coup de pub, si tu veux. Ils annoncent à chaque fois un gros film. Ouais. Bon, à voir.
Ouais.
À voir s'ils retombent pas, on va dire, dans les mêmes schémas, dans les mêmes façons.
En tout cas, ce qui est intéressant
filmer.
Dans les précédents Indiana Jones, c'était la qualité d'image, comment ça a été tourné. On est vraiment plongé dans ces décors. Parfait, on va dire.
C'est hyper bien fait. C'est fait en studio. Il y a rien à dire au niveau des scènes d'action, tout ça. C'est
qu'on était en Égypte dans l'un des.
C'est super bien. Oui.
Indiana Jones, c'était pas mal.
Mais je veux dire, que va-t-il apporter de nouveau? Ça sera la grande question. Ça sera la grande question, vraiment.
Voilà. En tout cas, on attend.
Mais on l'attend, bien sûr.
Quelques informations supplémentaires sur la sortie de ce film.
Et puis, j'espère du fond du cœur que ce sera un grand film réussi et tout. Moi, c'est ce que je leur souhaite. Hein.
Et puis on a aussi le nouveau Mission Impossible qui est dans les cartons, qui devrait sortir très prochainement.
Voilà, mais celui-là je m'en fais pas trop parce que c'est quelque chose qui
Tom Cruise,
qui marche bien. Déjà Tom Cruise, il marche quand même. C'est un acteur qui est fréquenté. Ouais. Mais ces cascades, tout ça. On sait qu'à chaque fois c'est rocambolesque, acrobatique, c'est des films d'action.
Je crois qu'Harrison Ford aussi fait quelques petites cascades.
Mais
c'était
bien.
Un petit peu compliqué parce qu'il s'est blessé sur le tournage, dernier tournage. C'est pour ça que ça a pris un petit peu plus de retard.
Mais il commence à avoir de l'âge aussi.
On lui a dit, Harrison ne fait plus la roulade avant. Pascal, on arrive au terme de l'émission. Le temps passe vite. Toujours un plaisir de se retrouver sur Radio Grand Air, radiograndair.fr. Pour nous trouver, vous pouvez également télécharger l'application et surtout réécouter votre émission préférée de la radio en tract, l'émission qui donne envie d'aller au cinéma. Je ne vais pas spolier la fin de l'émission puisque c'est toi qui vas donner la fin et le mot de la fin, Pascal. En tout cas, merci. C'est toujours intéressant d'avoir ton analyse sur les films et puis d'en savoir un petit peu plus sur les réalisateurs, comment ce qui va être projeté à la brèche à Sainte-Foy-la-Grande.
Eh bien merci Christophe pour toutes ces remarques bienveillantes. Merci à tous les auditeurs et auditrices. Eh bien le mot de la fin, prenez soin des vôtres, regardez-moi la télé, écoutez Radio Grand Air et venez nous voir au ciné. On a toujours plein de choses à vous montrer, à vous faire découvrir. Soyez curieux et venez au ciné.
Ouais. Eh bien c'est noté, on ira voir les belles affiches dans le hall de la brèche. À bientôt Pascal.
Avec plaisir.